Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'actu ponctuées ça et là de quelques digressions licencieuses. À ce propos, beaucoup de messages pour me reprocher la diffusion hier d'un extrait de notre émission ne mettant pas, c'est vrai, en valeur mes consoeurs Céline Dacosta et Véroc, puisqu'on les entendait mastiquer bruyamment des sablés de Noël alsaciens à l'antenne. Je tiens à préciser qu'au contraire, afin justement de préserver la crédibilité journalistique des Véroc, j'avais volontairement coupé le moment où elle s'étouffe avec une boule coco, recrachant la dite boule coco un peu partout sur la table du studio. J'aurais pu vous diffuser l'intégralité de la séquence, telle que nous l'avons vécue.
Oh, mais c'est une tuerie. Oh, le truc à noix de coco là. Ah merde, c'est à moi.
Ah merde, je dois parler.
Moi.
Mais là, vous auriez pas un sablé de Noël dans la bouche.
Oui, que vous m'avez offert ce matin. J'ai pas changé ma bonnette en plus. J'ai craché dessus.
Heureusement, debout les copains, voilà l'intégralité les amis. Debout les copains, ce ne sont pas que des postillons sur bonnette, c'est aussi le recul historique de Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1 qui nous dira ce matin d'où vient la pratique incontournable désormais en ce début janvier des bonnes résolutions.
Merci d'écouter Europe 1 en ce mardi 8 janvier. Et très bon réveil à tous, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 8 janvier, voici le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Édouard-Philippe Durcilleton à l'égard des casseurs, il promet la création d'un fichier, une mobilisation massive des forces de l'ordre samedi prochain pour l'acte 9 des Gilets jaunes. Première apparition de Carlos Ghosn depuis son arrestation au Japon, le patron de Renault se dit accusé à tort. Et puis Thierry Mariani va annoncer son ralliement au parti de Marine Le Pen en vue des élections européennes de mai prochain. Les casseurs n'auront jamais le dernier mot, c'est ce qu'a martelé hier soir sur TF1 Édouard Philippe. Le Premier ministre a fermement condamné les violences commises lors de l'acte 8 des Gilets jaunes. Il a annoncé plusieurs mesures, dont la création d'un fichier pour personnes interdites de manifestation. Le texte pourrait être déposé très rapidement à l'Assemblée. Édouard Philippe a également annoncé que les forces de l'ordre seraient déployées en masse samedi prochain. 80 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France. Des annonces fraîchement accueillies par des Gilets jaunes réunis hier soir à Montreuil en région parisienne. Pauline Jacquot.
Dès l'apparition du visage d'Édouard Philippe sur le rétroprojecteur, la salle se met à siffler, huer le Premier ministre qui entame sa déclaration. Sanctionner les casseurs, garantir l'ordre public, ficher les manifestants, José en a assez entendu.
À part la répression, il n'avait aucune autre proposition à faire. Évidemment, ça va à l'encontre de ce qu'attendaient les gens. Et je crois qu'au contraire, ça va encore mettre de l'huile sur le feu. Il y aura d'autres explosions parce que les grands problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est le problème du pouvoir d'achat.
Comme si les violences n'étaient que d'un côté, s'agace Marco, qui garde en poche, comme un témoin, la balle de flashball qu'il dit avoir reçue lors d'une manifestation à Paris.
Les flics, ils m'ont tiré dans le pied. Samedi, ça s'est super bien passé. Le problème, ça a dégénéré quand les Gilets jaunes ont été bloqués. Donc le fait que les CRS, ils nous bloquent, et en plus, ils nous balancent des gaz lacrymogènes. Automatiquement, la violence, c'est eux qui la créent et c'est eux qui la provoquent.
Et certains s'inquiètent ici de cette surenchère de violence, disent-ils, sans savoir quand ni comment elle se terminera.
Pauline Jacquot pour Europe 1. Parmi les réactions politiques, celle de Laurent Wauquiez, pour qui les annonces du Premier ministre sont sans efficacité immédiate. Pour Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe autorise les manifestants à ne plus manifester, sinon ils seront fichés. Le roi des Shadoks est à Matignon. Fin de citation. L'ancien boxeur qui est accusé d'avoir frappé des gendarmes à Paris samedi a passé la nuit en garde à vue. Il s'est rendu lui-même à la police. Une cagnotte de soutien a été lancée hier sur Internet et ce matin, elle dépasse déjà les 111 000 euros. Dans l'actualité ce matin, la première apparition de Carlos Ghosn depuis son arrestation au Japon. Le PDG de Renault a perdu beaucoup de poids. Il est arrivé au tribunal de Tokyo vêtu d'un costume sombre menotté avec une corde autour de la taille. Carlos Ghosn a affirmé avoir agi avec l'approbation des dirigeants de Nissan. Il dit être faussement accusé et détenu de manière injuste.
Europe 1, 6h03.
Il admet des erreurs, mais ne se sent pas coupable. Le cardinal Barbarin est jugé depuis hier devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Oui, poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle commise par le père Prégnat sur deux jeunes enfants entre 1986 et 91. Le cardinal Barbarin a affirmé qu'il n'avait jamais cherché à cacher ces faits horribles. Mais sur le fond, aucun mea culpa. Selon son avocat, il a d'ailleurs joué un rôle important pour les victimes.
Il a effectivement obéi à une logique ecclésiastique en faisant ce qu'on lui demandait de faire, ce qui est tout à fait normal.
Sur le plan de l'infraction qui nous est reprochée, le cardinal a assumé son rôle de responsable de l'Église lyonnaise, a parlé de ce qu'il avait fait. Sur le plan pénal et de l'infraction, il indique qu'à aucun moment, avant de rencontrer M. Hezez, il n'a perçu le sérieux, la gravité des infractions. Et que c'est quand il rencontre une victime, qu'à ce moment-là, il le perçoit, il l'encourage, et que c'est par son action, par son intervention, qu'il y a aujourd'hui un dossier Prena.
Maître Luciani au micro Europe 1 de Jean-Luc Boujon. Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, va annoncer son ralliement à Marine Le Pen pour les élections européennes. Il va tenir une conférence de presse demain pour l'annoncer officiellement. Un vrai changement de cap pour celui qui avait créé un mouvement à l'UMP pour faire barrage au Front National, Adrien Beck.
Voilà des mois qu'il se tourne autour. Épilogue, demain, sauf énorme surprise, Thierry Mariani dira oui à Marine Le Pen. Il sera candidat sur la liste du Rassemblement National pour les élections européennes, tout comme l'ancien député UMP Jean-Paul Garot. Tout en haut de la liste, sans doute en troisième ou cinquième position, l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy, que nous avons pu joindre, loue les qualités du jeune chef de file Jordan Bardella. Un type brillant, impressionnant, dit-il. Un ralliement sans ambiguïté, donc. Et pourtant, en 2010, Thierry Mariani avait créé la droite populaire, un courant de l'UMP qui affirmait être un barrage entre la droite et le Front National. Les temps ont changé, Thierry Mariani devrait quitter les Républicains. « Mais on ne m'a pas demandé de prendre ma carte au RN », nous assure-t-il. Manière pour Marine Le Pen de jouer l'ouverture avec une grosse prise de guerre à quelques jours du lancement officiel de sa campagne.
Adrien Beck pour Europe 1. Benoît Hamon, lui le chef de file de Génération pour les Européennes, a annoncé fermer la portière à Lille à une liste commune avec le Parti Socialiste. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir demain pour entendre le rapport de l'envoyé spécial au Yémen. Une trêve y a été globalement respectée depuis le 18 décembre. Le conflit dans le pays a fait au moins 10 000 morts depuis mars 2015. La situation est catastrophique pour près de 20 millions de personnes qui ne parviennent pas à se nourrir correctement.
Ça fait déjà 2 ans que l'utilisation du sac plastique à usage unique est entrée en vigueur, sauf que dans les faits, la règle n'est pas respectée.
Oui, en France, les ONG écologiques estiment que les petits commerçants n'ont pas joué le jeu. Vous avez dû le remarquer quand vous achetez vos fruits et légumes sur les marchés, on vous propose très souvent un sac en plastique. Alors pourquoi ça coince? Élément de réponse avec Rémi Bossard.
Il suffit de se promener sur un marché parisien par exemple et vous trouverez encore un peu partout des commerçants qui proposent ces petits sacs en plastique fin officiellement interdits. Ces professionnels ne s'en cachent pas d'ailleurs, même s'ils ont fait des efforts, ils sont encore loin de respecter la loi, tout simplement parce qu'ils répondent à la demande de leurs clients, selon Monique Rubin, présidente de la Fédération Nationale des Marchés de France.
Vous savez, sur un marché, on arrive, on a un gros sac cabas, et il est très difficile de mélanger des pommes de terre avec une casquette ou avec un morceau de fromage. Et c'est cet argumentaire-là que développent nos clients, qui nous disent « Oh, vous me donnez bien un petit sac !» Et c'est quand même assez difficile de le refuser à nos clients. C'est un problème d'éducation.
Et c'est effectivement sur les clients que tout repose, selon l'ONG écologiste Surfrider. Ce sont donc à eux, les clients, d'adopter des sacs réutilisables en tissu pour pousser les commerçants à changer leurs habitudes. La solution ne passera de toute façon pas par des sanctions. Tout le monde s'accorde sur ce point. Depuis la promulgation de la loi, ni les professionnels, ni les ONG ne constatent réellement de contrôle de l'usage de ces sacs dans les commerces.
Rémi Bossaron, et puis notez que le ministre de l'écologie, François de Rugy, sera sur Europe 1 ce matin à 8h15. Carl, l'invité d'Audrey Crespo-Mara.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Je vous dis à demain, si Dieu le veut.
Dieu le veut ? Mais il est mort, Philippe, Dieu le veut.
Mais ça n'a rien à voir, Eva, c'est l'expression.
Europe 1. Il est 6h08, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et aujourd'hui, Fabrice Dalméda s'interroge. D'où vient donc l'idée des bonnes résolutions du mois de janvier ? Bah, espérons que Dalméda ait un peu plus bossé le sujet qu'Eva.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo de ce mardi avec vous, Céline Dacosta.
Bien sûr, avec un ciel perturbé.
Un ciel très perturbé, avec des averses et même de la neige.
Effectivement,
alors,
oui.
C'est gagnant.
De la neige sur tous les reliefs, sauf les Pyrénées et les Alpes du Sud pour ce matin. Et ça toute la journée. Hein. Les Pyrénées et les Alpes du Sud, la neige arrivera en début de soirée. Des averses également entre la Bretagne et le nord de la Gironde, jusqu'en Alsace-Franche-Comté pour ce matin. Elles vont ensuite se décaler vers les régions plus au sud dans l'après-midi. Le temps sera plus sec sur une moitié nord avec même quelques éclaircies. Et puis on a du vent bien sensible sur les côtes de la Manche et près de la Méditerranée. Le tout sous des températures encore fraîches ce matin. La moyenne cet après-midi ira de 5 à 11 degrés, un petit peu plus dans le sud-est.
Merci Céline. Eva Roque, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Pascal Obispo. Vous avez décidé d'en faire une question.
Eh bien oui, parce que comme il le chantait en 1992, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimez plus que tout au monde. Eh bien les auditeurs,
vous n'avez pas l'air d'assumer vraiment cette idée de question aujourd'hui. Hein.
Si, parce que ça m'a fait rire. Et puis on a eu des chouettes messages sur Twitter.
Si ça vous a fait rire, c'est l'essentiel.
Avec le hashtag Europe 1 Quentin, par exemple, qui nous dit Roger Federer en repensant à Mathieu Noël qui avait livré un grand match face à lui il y a quelques années. Vous voyez, des gens qui vous suivent depuis l'an dernier. Exactement. Il y a Géronimo qui nous dit mon lit, et on le comprend très bien.
Ah oui.
Ou encore Gecko qui nous envoyait ce message très joli, la respiration calme de son fiancé endormi, 28 ans, que ça me repose mieux que tout au monde.
Que quand il dort, en fait. Hein.
Voilà. Très joli, mais voilà.
Faut qu'il dorme.
Il est mieux, il le préfère inerte. Merci à
c'est
vous.
Pas gentil.
Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le voilà, il est de retour dans ce studio. Vous vous êtes certainement demandé pourquoi un homme comblé, rayonnant comme Jérôme Lacroix, journaliste au talent reconnu et marié à une femme qui lui prépare de merveilleux moelleux au chocolat, avait pu tomber dans le piège de ce qu'il est convenu d'appeler l'adultère d'Open Space. Lorgnant de plus en plus sur sa collègue Céline Dacosta au fil des mois. Eh bien, si comme moi, vous connaissiez Madame Lacroix...
Nom de Dieu, voilà mes petits gâteaux qui brûlent.
Vous comprendriez. On passe au journal des sports. Le cri du cœur de Jérôme. On embrasse votre délicieuse épouse qui évidemment n'a pas cette voix. À la une du journal des sports, Jérôme, une dramatique série noire.
Avec ce nouveau décès d'un jeune joueur de rugby, des suites d'actions en jeu, c'est le quatrième en moins de 8 mois. Nathan Soyot avait 23 ans et on a appris hier son décès, survenu dimanche à l'hôpital de Dijon. Des suites d'un choc reçu lors d'un plaquage au cours d'une rencontre universitaire avec l'équipe de son école d'ingénieurs. Son état s'est dégradé après une période de coma artificiel et plusieurs opérations au cerveau. Ce matin sur Europe 1, témoignage de Quentin, un ami d'enfance de Nathan Soyot, touché mais aussi en colère.
Triste pour ses parents surtout. C'est pas possible de voir des gens mourir à cause de quelque chose qu'on aime, quoi. À la base, c'était un sport d'évitement. Le but, c'est faire des passes, éviter les mecs en face pour marquer des essais. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé dans un sport où il faut se rentrer dedans. Et au final, on se retrouve avec 4 mecs qui sont partis sur le terrain. Il doit y avoir des parents qui ont leurs enfants sur les terrains, qui vont peut-être plus vouloir qu'il y aille. Je me mets à la place de ses parents, là, se dire qu'il est décédé en jouant au rugby. Enfin, c'est pas possible, ça doit pas exister, quoi. Donc, il faut qu'on réagisse en changeant sûrement certaines choses, quoi.
Témoignage recueilli par Juliette G pour Europe 1. Et je précise que les instances françaises ont récemment proposé à la Fédération internationale un abaissement au niveau de la taille du niveau des plaquages. Un congrès mondial sur la santé des joueurs doit avoir lieu en mars à Paris.
Le football, Jérôme, et alors là, ça fait plaisir, on connaît le programme des 16e de finale de la Coupe de France.
Et oui, tirage au sort hier soir, et avec les belles histoires, notamment des deux plus petites équipes en lice qui continuent 6e division, les Essoniens de Viry-Châtillon décrochent une Ligue 1. Ce sera quand ? Ce sera l'affiche la plus déséquilibrée sur le papier. Les joueurs de Noisy-le-Grand à Seine-Saint-Denis se déplaceront à Bastia, 5e division. Et puis, il y a les joueurs d'Andrézieux dans la Loire, 4e division, les tombeurs des Marseillais. Eux, ils recevront les voisins en fait, de Lyon-Duchère, cette équipe de Lyon-Duchère qui évolue seulement une division au-dessus en nationale. Et cela convient parfaitement à Christophe Pereira, le président d'Andrézieux.
Le fait de recevoir nous suffit. On voulait surtout, c'était être joué dans notre stade et accueillir une équipe, alors soit de notre niveau, soit au-dessus, mais que ça soit vraiment à l'envol. Je pense que le public, derrière cet exploit contre Marseille, sera présent. Et on va essayer d'organiser encore une belle fête.
Des propos recueillis par Sébastien Boé pour Europe 1. Par ailleurs, le PSG connaîtra son adversaire la semaine prochaine. Ce sera ou Strasbourg ou Grenoble. Les Lillois, qualifiés hier soir 1-0 contre Sochaux, iront à 7, 4e division. Ces 16e de finale de Coupe de France se tiendront les 22 et 23 janvier. Le Dakar et le Qatari Nasser Al Attiyah remportent au volant de sa Toyota la première étape de Lima à Pisco au Pérou. Sébastien Loeb seulement 13e.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Saviez-vous que cette semaine démarre le mondial de handball masculin? Et qui sont les champions du monde en titre qui vont défendre leur trophée? Bah oui, c'est nous.
Enfin, c'est nous, c'est les bleus.
Oui. Le tournoi se tient au Danemark et en Allemagne. Début de la compétition jeudi, ce sera vendredi pour les Français face au Brésil à Berlin. Et hier soir à Rouen, une victoire pour l'ultime match de préparation. 29-21 face aux Slovènes.
Ah, merci, allez. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Jérôme, je suis sûr que vous êtes déjà posé la question. Pourquoi, diable, est-ce Patrick Sébastien qui présente le réveillon Cendrillon du 31 sur France 2 et pas Fabrice Dalméda. Eh bien, oui. Voici la réponse.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bonne année bien sûr.
On comprend maintenant, on comprend un peu mieux. Aujourd'hui, dans cette historique, Fabrice Dalméda remonte le temps à la recherche de l'origine de cette tradition amusante pour certains, stressante pour d'autres, les bonnes résolutions de la nouvelle année.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est l'époque des bonnes résolutions, chacun en prend ou en suggère à d'autres. Mais dites-moi, ça remonte loin cette pratique?
Très très loin, on en trouve des traces dans les premières civilisations de Mésopotamie, aux confins du Tigre et de l'Euphrate, dans les lointaines Sirac et Iri, dans les royaumes de Babylone, de Marie ou de Sumer, qui remontent au 3e millénaire avant notre ère. Il existait une fête du début de l'année, son nom Akitu. On y honorait le dieu Marduk, le plus puissant du panthéon babylonien, pendant une dizaine de jours. Les réjouissances étaient situées au mois de mars, entre prières, interdits alimentaires et banquets. Chaque jour, les prêtres mettaient en scène la vie de Marduk pour symboliser le retour de la fertilité de la terre. Les prêtresses s'unissaient aux dieux pour accoucher d'un nouveau cosmos. Et le roi, lui, le troisième jour, devait se faire pardonner ses péchés. Dépouillé de tous ses attributs princiers, il était humilié par le grand prêtre au pied des statues du dieu pour favoriser donc un bon destin pour son pays.
Mais comment se passait la prise des résolutions?
Alors c'était très formel pendant Akitu. Les vassaux, les troupes, le peuple s'engageaient à obéir au roi et à lui être fidèle dans l'année à venir. Comme ces résolutions étaient placées sous l'autorité du dieu Marduk, grâce à des serments, tout parjure était frappé de malédiction. C'est le point de départ de nos résolutions et vous le voyez, c'était très politique.
Et on prenait ces bonnes résolutions seulement durant cette période de fête?
Oui, mais pas le premier jour. Parce qu'il était considéré comme mauvais pour accomplir ses désirs. Donc il fallait attendre.
Ah, moi ce aussi. Qui... Moi j'attends la fin janvier.
Voilà,
j'attends
il fallait le 29. Attendre un petit peu. Alors il ne fallait pas attendre
ah
autant
non, pas,
que
pas
ça.
Ah bon.
Mais au moins passer le début de l'année, ce qui est un peu resté notre habitude. Et il est étonnant de voir combien ces attitudes anciennes se sont transmises d'une culture à l'autre depuis des millénaires, même si, il faut bien l'avouer, nos bonnes résolutions sont beaucoup moins formelles.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. C'est vrai que moi, si on m'avait posé la question, enfin quand j'ai vu votre sujet sans connaître, sans manque de connaissance de la chronique, je pensais que ça remontait à, je sais pas, j'aurais dit 50 ans, enfin, ou le début du siècle, début du 20e siècle. Je suis surpris de voir que ça remonte au 3e millénaire avant notre ère. Merci beaucoup Fabrice Dalméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Demain.
Europe 1. Il est 6h17, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. À 6h20, nous recevrons le comédien Vincent Dedienne qui, par un formidable don d'ubiquité, sera demain soir à la fois à l'affiche d'une nouvelle pièce de théâtre et sur TMC pour une soirée pyjama déjantée qui promet. Et puis politique, économie, médias, toute l'actu décryptée par nos trois fantastiques. Au programme notamment ce matin, le retour d'un vieux refrain.
Taxe foncière, taxe immobilière.
Et si finalement on maintenait la taxe d'habitation pour les foyers les plus aisés? Une proposition qui confirme les lignes de faille au sein du gouvernement. Mais d'abord un autre refrain, plus doux à nos oreilles, Eddy de Pretto avec Random sur Europe 1.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens regarde, je ne sais pas le faire. Oh, j'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tous ceux qui gagnent, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Faire si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent.
collectionne. Donc si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces. Sans les jeux de baise à la ramasse, il me manque ce petit tac de sursoir pour que ça marche. En attendant, je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Je crois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup, je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui code, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens.
Random, Eddy de Préto sur Europe 1, un rappeur qui plaît énormément à Eva Rock. Qui, je lui demandais qu'est-ce qui lui plaît tant chez Eddy de Préto et elle m'a dit j'aime parce qu'il articule bien. Et ça, c'est vrai, c'est vrai que c'est un beau compliment qu'on pouvait lui faire.
Bah oui.
Une bien belle articulation. Bravo, Eddy.
Europe 1, il est 6h20, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de bonne humeur, mais aussi de belles rencontres. À 6h20, nous accueillerons un comédien attachant et extrêmement talentueux. Eva, si je vous dis humour de qualité, élégant, fin et moderne, et immédiatement, vous pensez...
Vous savez, je pense à Rabbi Jacob quand il est dans l'usine de bonbons,
mais,
là.
Mais non. Dans un instant, nous recevons Vincent Dedienne, qui fait son retour sur les planches mercredi, et qui sera demain soir aussi la vedette d'une émission spéciale de TMC en prime time, au cours de laquelle un certain nombre de surprises et de stars vous attend.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h22, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Carlos Ghosn devant la justice pour la première fois au Japon. Le PDG de Renault se dit faussement accusé, arrêté pour des malversations financières présumées mi-novembre. Il affirme avoir agi avec l'approbation des dirigeants de Nissan. Une nouvelle loi anti-casseurs avec un fichier, c'est ce qu'a promis hier soir Édouard Philippe sur TF1. Le Premier ministre a annoncé un dispositif de sécurité considérable pour l'acte 9 des Gilets jaunes samedi. Et puis l'ancien boxeur, accusé d'avoir frappé des gendarmes à Paris samedi dernier, a passé la nuit en garde à vue. Une cagnotte a été lancée sur Internet pour qu'il ne soit pas le seul à payer. Ce matin, le montant s'élève déjà à plus de 111 000 euros.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici donc pour les titres de l'actualité de ce 8 janvier. L'autre actualité du jour est artistique. À la télé demain soir à 21h sur TMC avec Soirée Pyjama et au théâtre du Rond-Point pour la pièce Erwart ou Les Derniers Jours de Federinich avec un big band de jazz en mars pour raconter la vie d'Ella Fitzgerald. Il est absolument partout. Bonjour Vincent Dedienne.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Soirée Pyjama? Expliquez-nous, c'est sur TMC.
Ouais, ça je le sais.
C'est une sorte de soirée de gala.
C'est une sorte de...
Autour de vous.
Ouais.
Vous en êtes à ce stade de staritude.
Oui, pourquoi? C'est prématuré? Vous trouvez que c'est prématuré?
Je trouve absolument pas que c'est prématuré. Je trouve que c'est tout à fait justifié. Voilà. Mais j'aimerais que vous...
Parce que moi, j'avais au début proposé une journée, consacrée, oui. Sur l'ensemble des chaînes hertziennes.
Oui,
et puis ça m'a été refusé.
C'est dommage. Ça devient une soirée, finalement.
C'est qu'une soirée.
Que une soirée avec l'excellent Yann Barthès à la présentation.
Avec l'excellent Yann Barthès en duo.
Et des surprises, en veux-tu, en voilà.
Pagaille.
C'est une série de sketchs, en fait, de
scénettes. Oui, en fait, j'ai écrit des conneries dans tous les sens. Puis après, j'en ai enlevé. J'en ai remis. Et puis après, Yann Barthès a demandé à ce qu'il y ait un plateau, un canapé, des lumières, des caméras. Plein de gens que j'aime bien et qui étaient d'accord pour venir faire des conneries avec moi.
Et ça s'est bien passé.
Par exemple, Jean-Pierre Bacri, Jérôme Commander, Élysée Moon, Camille Cotin, Julie Gayet, Nathalie Baye. Et puis on a fait un espèce de fil rouge. Et puis voilà.
Et vous êtes en pyjama ou pas?
Ben oui, en pyjama 3 pièces.
Voilà, c'est ça, vous êtes en smoking en fait.
Ouais.
Vous chanterez aussi, parce qu'en plus vous avez un bel organe, vraiment la nature vous a tout donné. Hein. Il y a eu un problème de répartition des dons.
J'adore entendre ça dans la bouche de Mathieu Noël. J'ai bien fait de me lever. Non mais parce qu'on avait envie de faire une émission de variété. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de promo. Et puis il y a de la musique et des sketchs, quoi, voilà.
Et il y a de l'actu aussi. Est-ce que vous faites une revue de presse? Est-ce que vous parlez politique?
Ah oui, j'ai refait une revue de presse.
Ce qui a fait votre gloire,
ma gloire même outre-Atlantique.
Bah, évidemment, évidemment. Donc c'est une émission un peu surannée, un peu qui nous ramène aux sources du divertissement.
Oui, voilà.
De
moi,
qualité.
J'incarne le côté bien ringard. Et puis heureusement, il y a Yann qui est moderne. Voilà, c'est le binôme.
C'est l'alliance
parfaite. Comme ça.
Alors moi, je trouve tout à fait normal qu'on vous consacre une soirée comme ça sur TMC. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Très bien. Comment vous définirez votre humour? J'adore cette question parce que la question que je déteste qu'on me pose, c'est la question horrible pour un humoriste.
Mais qu'est-ce que vous répondez,
monsieur? Je ne sais pas, je ne réponds rien. J'essaie de citer, je cite des noms de gens que j'admire.
Et quand voilà, on me demande des noms de gens que j'admire, je vous cite vous, hein, vous le savez.
Oui, bien sûr.
Non,
on va
c'est
s'en
vrai.
Sortir.
Ah bah, c'est vrai.
Moi, bon. Si je vous dis Pierre Palmade, ça vous évoque quelque chose? Pierre Palmade, c'est quelqu'un qui a compté dans votre construction ou pas du tout?
Vachement. Oui, qui voilà, compte toujours d'ailleurs. Là, son dernier spectacle, il a joué au Rond-Point et à l'Atelier, et c'est était super. Oui, parce qu'en fait, j'aime bien que ça soit pas une préoccupation stressée de faire rire. Je déteste quand je sens que le type va d'un rire à l'autre.
Oui, enchaîne des vannes voilà, sur vannes. Ouais. Non, ça, alors c'est que... pas votre style, effectivement.
Bah oui, moi, si c'est pas ouais. drôle pendant 14 secondes, mais que c'est un peu singulier, oui. Voilà, moi j'aime bien aussi.
Ou fantaisiste,
oui,
ça
voilà,
vous plaît.
Ou bizarre.
Ouais. Pour moi, vous êtes un humoriste Télérama qui, en plus, a le toupet d'être populaire. Vous êtes un peu la quadrature du cercle de l'entertainer moderne. Oh. Je vais pas souvent sur la flagornerie, mais là, ce matin, j'y vais.
Oh là là.
Vous êtes quand même entré dans ce métier par l'humour. C'est en regardant une VHS du spectacle de Muriel Robin que vous avez eu le déclic.
Oui. En fait, j'avais jamais vu même de spectacle. Je savais pas que ça existait, le théâtre.
Le premier, ça a été Muriel Robin.
Oui, en vidéo, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se réunissaient dans une salle, que la salle était plongée dans le noir, que d'un coup, il y avait de la lumière, qu'une bonne femme arrivait et disait des trucs devant des gens qui se taisaient. Et avant même de connaître ce qu'était l'humour, machin, j'ai appris ce que c'était que l'idée même de spectacle. Et ce que c'était qu'un théâtre, un lieu. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh, j'ai senti que c'était organique. Je pense qu'il y a des. Enfin, ça fait ça à plein de gens. On sent qu'on est fait pour ça, quoi. Moi, je me suis dit, ça, c'est le velours, le rouge, les planches, tout ça, c'était très
physique. Vous aviez quel âge ? Vous étiez ado ?
Ah non, j'étais à la maternelle. Ouais.
Alors, vous serez donc aussi au Théâtre du Rond-Point pour la pièce Erwart ou Les Derniers Jours de Frédéric Nietzsche. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Le titre est intrigant.
Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde.
Je vois que vous avez des références assez solides.
Bah, c'est une comédie. Ça n'a pas l'air parce que, en fait, Frédéric Nietzsche, il est dans la pièce, mais il fait des claquettes. Il a une grosse moustache, il fait des claquettes. C'est une comédie d'un auteur qui s'appelle Hervé Blutch, que j'adore, parce qu'il écrit sans se soucier de savoir si c'est possible d'être joué. Donc, en fait, du coup, il y a plein de metteurs en scène qui ont voulu monter la pièce et qui se sont cassés les dents parce qu'ils n'ont pas réussi. Et là, Laurent Fréchuret a réussi à la monter et c'est une énorme cour de récréation. L'histoire, c'est un mec qui est persuadé que sa femme le trompe et qui, du coup, bute tout le monde et qui devient fou. Et toutes ses peurs, toutes ses paranoïas, tous ses fantasmes, tous ses cauchemars s'incarnent sur scène.
Un mot plus sérieux, vous faites partie d'un collectif de 70 personnalités pour une opération de sensibilisation contre l'homophobie. L'homophobie, c'est quelque chose dont vous avez été victime personnellement ?
Alors, non. Mais en fait, j'ai dit oui le jour où j'ai vu Cyril Hanouna faire un canular en prime time. Et là, je me suis dit, ah non, si l'homophobie est la bienvenue à 21h devant des millions de téléspectateurs, ça c'est pas possible. L'homophobie ordinaire, parce que je pense pas que Cyril Hanouna soit un homophobe notoire, je pense même pas. Mais en fait, on se rend pas compte qu'on peut être discret. Mais même quand on écrit des blagues, moi, il y a toujours un moment où je me relis pour être sûr qu'il n'y a pas un truc facilement misogyne, facilement homophobe, facilement transphobe, facilement... En fait, c'est assez facile d'être discriminant.
Ouais, nous aussi, on se relit pas mal avec Eva, mais peut-être pas assez parfois, certains matins.
Bah, oui, mais enfin, à 2h du matin.
Écoutez, en tout cas, merci infiniment, Vincent, d'avoir été avec nous si tôt sur Europe 1. On vous retrouve donc sur TMC demain soir à 21h pour cette soirée pyjama qu'on a hâte de découvrir. Et vous êtes donc au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 10 février, Eva, pour Erwart ou les derniers jours de Frédéric Nietzsche. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Europe 1. Il est 6h28, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient avec son cortège de nuages bas et de pluie un peu partout.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Et il est 6h29, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, la météo avec vous, Céline Dacosta, un temps un peu agité aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, des averses dès ce matin de la Bretagne au Pays de la Loire, en passant par le centre, le nord de l'Auvergne, de la région Rhône-Alpes, et puis en remontant par la Bourgogne-Franche-Comté vers l'Alsace et la Lorraine. Sur les reliefs de la neige, dès 600 mètres d'altitude, il reste encore un petit peu de soleil, mais bien voilé des Pyrénées aux Alpes du Sud, et le ciel, même s'il est couvert, laissera passer quelques éclaircies sur la moitié nord dans la matinée. On a du vent également, près des côtes de la Manche, près de la Méditerranée, Mistral et Tramontane qui vont être bien présents encore aujourd'hui. Vent aussi sur les Caps Corses. Côté température, elles vont ce matin de moins 2 à 2 degrés du sud-ouest au nord-est, 3 à 7 degrés pour les autres.
Pas mieux cet après-midi,
non,
hélas.
Pas vraiment, non, on aura le retour d'éclaircies quand même. Sur les côtes de la Manche, au prix d'un vent, là encore bien sensible. Partout ailleurs, ce sera mitigé. Sec sur un gros quart nord-ouest, mais pluvieux pour les autres, avec de la neige sur les reliefs. Et encore beaucoup de vent près de la Méditerranée, jusqu'à 100 km à l'heure pour le Mistral. Les températures, 7 à 11 degrés en moyenne, jusqu'à 16 degrés à Toulon.
Merci beaucoup Céline Dacosta.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h sur cet étroit filin qui sépare la bonne humeur du potage et l'information de l'infotainment. Juste après le journal, vous retrouverez vos trois fantastiques. Politique, économie, médias, nos experts décortiquent l'actu pour vous. Au programme ce matin, la taxe d'habitation peut-être finalement de retour pour les plus aisés et le boom de la voiture électrique d'occasion. Mais pour l'heure, place à l'info avec un grand I, porté par un journaliste qu'on savait talentueux, mais qu'on a découvert aussi polyglotte lorsqu'il a évoqué hier, avec un accent digne de Jean Dujardin de SS 117, le salon de l'électronique de Las Vegas.
Le Consumer Electronic Show.
David Duken.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue si vous nous retrouvez, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Et voici donc le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Le gilet jaune boxeur répond de ses actes, il a passé la nuit en cellule. Qu'a-t-il dit aux enquêteurs? Information Europe 1 dès le début de ce journal. Et puis le gouvernement est sur une ligne de fermeté. Le Premier ministre a annoncé un dispositif de sécurité maximum pour samedi prochain et une nouvelle loi anti-casseurs. L'Italie se mêle-t-elle de ce qui ne la regarde pas? Le pouvoir populiste de Rome a dit son soutien au gilet jaune. Réaction courroucée à Paris. Et enfin, Carlos Ghosn s'est exprimé pour la première fois depuis son incarcération devant un juge. Il s'est dit faussement accusé et détenu de manière injuste.
Europe 1.
La réponse du gouvernement au regain de violence de samedi dernier. Le Premier ministre était hier soir l'invité du 20h de TF1. Les manifestants violents n'auront pas le dernier mot, a-t-il martelé. Édouard Philippe a promis que dès samedi prochain, le dispositif de sécurité retrouverait son étiage de mi-décembre avec près de 80 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire. Il a aussi annoncé une nouvelle loi anti-casseurs avec un fichier comme celui utilisé contre les hooligans. Venons-en maintenant au cas de ce boxeur professionnel que l'on a vu en train de frapper des gendarmes samedi. Christophe Détinger a passé la nuit en cellule. Il s'est rendu hier à la police. Il est à 7h toujours en garde à vue. Que sait-on de ces échanges avec les policiers? Information signée Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Depuis hier, il fait profil bas devant les enquêteurs. D'après nos informations, l'ancien boxeur professionnel reconnaît avoir frappé les gendarmes mobiles. Des violences qu'il regrette, dit-il. Selon lui, son coup de sang aurait été provoqué par des violences policières sur une femme vêtue de rouge qui aurait été frappée. Or, sur les séquences vidéo, une femme qui pourrait correspondre est bien présente. On la voit recevoir du gaz lacrymogène. Mais aucun coup. Sur le fond, l'ancien boxeur en veut aux représentants de l'État qui se gavent sur le dos des Français, explique-t-il. En revanche, pour sa femme, qui a été entendue comme témoin, le problème, c'est surtout la hausse des taxes. La version du suspect doit encore être confrontée aux vidéos, notamment. Voilà pourquoi sa garde à vue pourrait être prolongée. D'après nos informations, l'ancien boxeur professionnel va également devoir s'expliquer sur ce fusil de chasse non déclaré qui a été retrouvé chez lui en perquisition.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. J'ajoute que depuis samedi, Christophe Détinger est devenu l'une des coqueluches du mouvement des Gilets jaunes. Une cagnotte de soutien a été lancée sur Internet. Elle a, à cette heure, rassemblé plus de 100 000 euros. La restauration de l'ordre public est aussi un enjeu pour l'économie du pays. Une réunion se tient aujourd'hui au ministère des Finances avec les représentants du commerce. 58 000 salariés se sont retrouvés en chômage partiel du fait de cette crise et on s'attend à une accélération des faillites. Anne-Laure Jumet.
Un millier de défaillances d'entreprises en plus au mois de décembre par rapport aux prévisions, voilà l'estimation du cabinet Altares qui impute directement ces faillites aux gilets jaunes. Ça représente en moyenne 3000 emplois perdus. Les secteurs les plus touchés, l'habillement, la restauration, mais aussi la coiffure ou les instituts de beauté. Des secteurs déjà en difficulté dès la rentrée avec une consommation en berne. Dans le secteur de l'habillement par exemple, une entreprise indépendante sur deux avait en septembre de gros problèmes de trésorerie. Et le coup de grâce pour beaucoup est donc venu des blocages de novembre-décembre. Le début d'année ne s'annonce d'ailleurs pas meilleur, selon Thierry Mignon, directeur des études d'Altares.
L'année 2019 était attendue déjà avec un peu de précaution. L'épisode des Gilets jaunes, évidemment, conduit à ce qu'il y ait encore plus de méfiance. Donc nous allons, encore une fois, être sur un exercice 2019 qui ne parviendra pas à redescendre sous le seuil des 50 000 dépôts de bilan, qui est un seuil que nous n'avons plus connu depuis le début de la crise 2008.
Et aujourd'hui, les défaillances touchent surtout les petites entreprises de moins de 10 salariés, mais dans les mois qui viennent, les structures de plus grosse taille devraient-elles aussi être concernées.
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Le mouvement des Gilets jaunes s'inscrit-il dans une vaste vague populiste au niveau mondial? En tous les cas, le gouvernement italien a publiquement exprimé son soutien. Gilets jaunes ne faiblissaient pas, a lancé Luigi Di Maio, vice-premier ministre issu du mouvement 5 étoiles. Une ingérence surprenante de la part d'un partenaire européen et bien sûr, Jean-Rémy Baudot, cela a été vécu comme une mauvaise manière par Paris.
Oui, la réponse officielle n'est pas venue de l'Elysée, trop délicate diplomatiquement. C'est la ministre Nathalie Loiseau en charge des affaires européennes qui s'est fendue d'un tweet. La France se garde de donner des leçons à l'Italie que messieurs Salvini et Di Maio apprennent à balayer devant leur propre porte. Un retour à l'envoyeur en réalité timide, tant quand on y prête attention, le soutien du gouvernement italien dépasse les désormais traditionnelles joutes verbales entre Paris et Rome. Hier, les populistes italiens ont joué à un tout autre jeu, une grave ingérence, murmure-t-on dans les couloirs du Quai d'Orsay. Luigi Di Maio a ainsi proposé une aide logistique aux Gilets jaunes via une plateforme internet controversée qui a notamment permis au mouvement anti-système 5 étoiles de remporter la mairie de Rome. En somme, à quelques mois des européennes, les leaders populistes italiens proposent aux Gilets jaunes de se structurer, de rejoindre un plus large mouvement eurosceptique. Inquiétude à Paris. Les Italiens sont souvent plus proches des Russes et des Chinois que de leurs voisins européens, s'alarme un ministre. C'est évident qu'ils cherchent à nous déstabiliser.
Merci Jean-Rémy Baudeau pour ces informations. Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. C'est l'information de la nuit. Carlos Ghosn s'est exprimé pour la première fois depuis son incarcération au Japon. Il a dit qu'il était faussement accusé et détenu de manière injuste alors qu'il comparaissait devant un juge. Sandales vertes en plastique aux pieds, amaigri, menotté et avec une corde autour de la taille. En quasiment deux heures d'audience, le PDG de Renault s'est exprimé en anglais et a affirmé avoir agi avec honneur, légalement et surtout avec la connaissance et l'approbation des dirigeants de la compagnie. Fin de citation.
À suivre dans ce journal, la super prime du gouvernement pour changer de voiture. On connaît maintenant les critères d'attribution. On vous explique tout dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, 6h37. Il est 6h38, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan. Vous nous parlez maintenant de la super prime du gouvernement pour changer de voiture.
Oui, on s'en souvient, c'était une annonce d'Édouard Philippe le 14 novembre dernier, donc avant le premier samedi de mobilisation des Gilets jaunes. La mesure était censée calmer la contestation, ça n'a pas fonctionné. Mais la mesure est maintenue et nous connaissons désormais les critères qui permettront à nos concitoyens de toucher jusqu'à 5000 euros pour changer de véhicule. Aurélien Fleureau.
Parmi les changements que doivent désormais intégrer les concessionnaires, le taux d'émission de CO2. Pour être éligible à cette nouvelle prime, il faut obligatoirement que la voiture que vous achetez émette moins de 122 grammes par kilomètre, ce qui réduit de 20% le nombre de véhicules concernés par rapport à l'an dernier. Un exemple, pour une Peugeot 3008 essence, la version 130 chevaux ne rentre plus dans les critères, il faudra passer à la version 110 chevaux. Mais ce n'est évidemment pas le seul critère. Cette prime ne concerne que 20% des ménages les plus modestes, ceux qui déclarent moins de 6300 euros par an, tout comme les salariés non imposables qui doivent rouler plus de 30 km pour aller au travail et pour en revenir. Là, le montant passera donc à 4000 euros si vous changez votre voiture pour une essence ou diesel, neuve ou d'occasion, et même à 5000 euros s'il s'agit d'une voiture électrique ou d'une hybride rechargeable. En revanche, pour ceux qui ne pourront pas bénéficier de cette prime doublée, il y aura les primes classiques qui vont de 1000 à 2500 euros selon les critères.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Les Californiens n'auront désormais plus le droit de manger du foie gras.
Et oui, c'est le dénouement d'une bataille juridique qui est remontée jusqu'à la Cour suprême américaine. Les défenseurs des animaux ont obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que le gavage était une méthode trop cruelle. Les précisions de notre correspondant à Los Angeles, Benoît Clerc.
Oui, même si la Cour suprême a attendu la fin des fêtes pour annoncer cette décision, les consommateurs californiens de foie gras font grise mine ce matin. Ils bataillaient depuis 2004 contre une association de défense des animaux qui avait réussi à faire entrer cette loi en vigueur avant qu'elle ne soit abrogée en 2015, puis validée en 2017. La France avait alors officiellement soutenu les producteurs de foie gras et les quelques 250 restaurateurs français présents en Californie. Laurent Queneau, le chef du bistrot LQ à Los Angeles, pourfendeur de la malbouffe, reste pourtant serein.
J'en vends plus quand c'est interdit, c'est vrai. On n'a jamais arrêté. On n'appliquera pas cette loi pour nous. Et les risques d'amende sont tellement dérisoires. I mean, ils vont envoyer la police pour voir si on vend du foie gras ou pas. Non, non, ils ont d'autres choses à faire. Ça n'arrivera jamais. Ce qui m'ennuie, c'est que il y a tellement d'autres produits qui devraient être interdits, comme leur chicken. Mais ça, c'est immangeable. Ce que l'on donne au niveau de saumon d'élevage, que les gens mangent, mais c'est tellement dangereux pour la santé, ça, on n'interdit pas. Mais le foie gras, que c'est pas un produit qui est dangereux.
Environ 600 tonnes de foie gras sont produites ou importées chaque année aux États-Unis. C'est 20 fois moins que la seule production française. À Los Angeles, Benoît Clerc, Europe 1.
Et enfin, sachez que Donald Trump repasse à l'offensive. Vous le savez, son projet de mur à la frontière avec le Mexique est à l'origine d'un blocage du budget américain. C'est le fameux shutdown. L'hôte de la Maison-Blanche prononcera ce soir un discours à la nation
nation, puis il se déplacera en fin de semaine à la frontière mexicaine. Son objectif est de faire plier la majorité démocrate à la Chambre qui refuse de débloquer les 5 milliards de dollars nécessaires à la construction du mur.
Merci, c'était le journal de David Doucan. David, qu'on retrouvera tout à l'heure dans le débrief de la matinale de Nikos Aliagas dans un sketch intitulé « Les petites leçons d'Helmut Newton à son jeune disciple ». Il y sera question de son nouvel iPhone 10. Mais d'abord, David, place pour la météo à celle pour qui, 10 ans après la pastille de la Minute Blonde, on va être obligé, si ça continue d'inventer, la Minute Brune.
Oh,
voici la dernière perle en date de Céline Dacosta. C'était hier, durant notre rubrique culturelle, Thierry Geffrotin, notre expert musique classique, se plaignait de douleurs dorsales.
Donc je retourne voir l'ostéo demain.
Mais si tu veux, il manipule pas.
Ah ouais? Ah, un ostéo qui manipule pas, c'est étonnant.
Pas qu'il tombe à craquer, c'est ça que tu veux dire?
Ah oui, d'accord, mais... Ah
bah oui, il touche.
Oui, bah, non, c'est oui, pas... Sinon, bah, non, mais je me dis, il fait quoi alors?
Eh oui, 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 la Minute Brune, notre nouvelle série. On passe à la météo, Céline.
Mais oui, avec plaisir.
Quel temps sur la France aujourd'hui?
À but de la pluie, de la neige, du vent. On va commencer par le vent qui est bien présent sur les côtes de la Manche, près de la Méditerranée également, et puis sur les Caps Corses. Toute la journée, Mistral qui va même se renforcer cet après-midi, puisqu'on aura des rafales jusqu'à 100 km à l'heure. Côté ciel, c'est souvent gris, quelques éclaircies pour la moitié nord avec un temps relativement sec. Les averses présentes ce matin des côtes atlantiques à la Franche-Comté vont ensuite se décaler vers le sud. La neige, elle concernera tous les reliefs cet après-midi, en soirée pour les Pyrénées et les Alpes du Sud. Voilà pour la météo.
Merci beaucoup, Céline Dacosta.
Europe 1.
Il est 6h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures qui certes font la part belle à la fantaisie et à la bonne humeur, mais cela dit, sans jamais s'autoriser le moindre compromis vis-à-vis de la rigueur journalistique qui doit être la nôtre, une rigueur et un professionnalisme qui transparaissent dans chacune de nos rubriques, comme hier, à l'issue de notre interview de ce monsieur qui était graphiste et qui était devenu meunier. Encore une interview qu'on avait bien bossée. Et si vous changiez de vie? Comme aujourd'hui Grégory, il était imprimeur, il est devenu meunier. Je sais même pas ce que c'est meunier.
Bah, il ramasse le blé, non?
Il fait de la farine.
Il y a encore des mecs qui font de la farine.
Meunier, tu dors.
Ton moulin va trop vite.
Heureusement, Debout les copains, c'est aussi de vrais professionnels de l'info, comme les trois fantastiques. Quelle honte quand j'y pense. Au programme ce matin notamment, la taxe d'habitation peut-elle être finalement de retour pour les plus aisés? Et le boom de la voiture électrique, mais d'occasion. A tout de suite.
Il est 6h45, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le Premier ministre était hier soir l'invité du 20h de TF1. Édouard Philippe a promis 80 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France samedi prochain. Il a aussi annoncé une nouvelle loi anti-casseurs avec un fichier comme celui utilisé contre les hooligans. Carlos Ghosn s'est exprimé pour la première fois depuis son incarcération au Japon. Il a dit qu'il était faussement accusé et détenu de manière injuste alors qu'il comparaissait devant un juge. Le PDG de Renault a affirmé avoir agi avec honneur, légalement et avec la connaissance et l'approbation des dirigeants de la compagnie. Fin de citation. Enfin, deuxième jour du procès Barbarin aujourd'hui à Lyon. Hier, le cardinal a vivement réfuté toute dissimulation d'actes pédophiles.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont au journalisme moderne ce que le club d'Andrézieux Boutéon, qui vient de sortir l'OM de la Coupe de France, est au football. Une équipe semi-professionnelle sur laquelle on ne miserait pas a priori et qui pourtant surprend de jour en jour. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour la télé, Axel de Tarlé pour l'économie et Mickaël Darmon pour la politique. Mickaël, c'est contractuel, hein, page 7 de votre contrat. On se doit de commencer par
8.
Vous. Page 8, c'est vrai, ce matin. Les mesures annoncées par le Premier ministre durcissent le ton de l'exécutif face aux Gilets jaunes et confirment l'existence de deux lignes politiques face à ce mouvement.
Et oui, c'est le nouveau en même temps, détermination et dialogue. Et on l'a vu hier soir, le pouvoir donc se montre déterminé à ne pas se laisser faire sur le chapitre donc, du maintien de l'ordre et de l'autorité face aux éléments violents des Gilets jaunes. Mais cette détermination eh bien, se met en place au moment où le président de la République cherche les mots justes pour écrire sa lettre aux Français sur le débat national et au moment où plusieurs ministres font entendre leur voix depuis également plusieurs jours pour privilégier le dialogue avec les Gilets jaunes qui, selon eux, ne peuvent pas être réduits à des extrêmes. Donc c'est le sens des prises de position de Mounir Majoubi, de Malène Schiappa, deux membres du gouvernement issus du premier cercle des marcheurs. Ils considèrent, comme le dit Schiappa au point, que les Gilets jaunes sont issus du modèle créé par l'élection présidentielle, plus de syndicats influents et des partis déclinants. Bref, ces marcheurs du premier jour réclament en fait un retour aux sources, avec un avec un principe sur le E. Le macronisme, c'est bien, mais il n'y a plus qu'à l'appliquer. C'est le dépassement des clivages de la droite et de la gauche.
Et justement, c'est un des ministres de droite qui est en train d'évoluer politiquement depuis le début de la crise. En l'occurrence, le ministre de l'économie, invité du grand rendez-vous sur Europe 1, il a fait une annonce qui n'est pas passée inaperçue.
Et oui, Bruno Le Maire l'explique, hein, on ne peut pas rester bloqué face aux gilets jaunes. Impossible de dire non à toutes leurs revendications. Il a donc proposé que la taxe d'habitation, on l'a entendu, soit maintenue pour les contribuables les plus riches. Depuis ce jour-là, le maire effectivement est conscient de jeter un pavé dans la mare. Ce sera au président de décider, dit-il. Mais surtout, c'est un signal à toute l'aile gauche de la majorité avec lequel donc qui est en phase avec la demande de plus de justice fiscale. C'est un message également à ses camarades venus de la droite, le cornu Darmanin et surtout Édouard Philippe. Il se démarque d'eux. Ce n'est pas le premier geste de ce genre. Le maire a travaillé, il faut le savoir, en étroite collaboration avec les députés de la Commission des Finances pour trouver le financement des 10 milliards annoncés par le président. Clairement, il anticipe un tournant dans le positionnement social du gouvernement, quelle que soit la forme donnée à ce tournant. Et au passage, il en profite une fois de plus pour se placer en contrepoint du chef du gouvernement, Édouard Philippe.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cet éclairage politique. On passe à l'économie avec Axel de Tarlé, le boom de la voiture électrique d'occasion, car ça y est, on commence à voir apparaître un marché de l'occasion électrique.
Voilà, il s'agissait de voitures neuves qui ont été vendues dans les années 2014-2015 et qui reviennent sur le marché. Alors, ce sont essentiellement des Zoé hein, vendues d'occasion, des Zoé de première génération. Alors, à l'époque, l'autonomie n'était que de 200 km. Et on les trouve pour un peu moins de 9000 euros. Alors, le Monde rapporte que cette année, on devrait en tout pour le marché de l'occasion approcher les 10 000 ventes. Alors ça reste un petit marché parce qu'évidemment il y avait peu de voitures d'occasion, de voitures électriques il y a 3-4 ans. Mais enfin, à mon avis, c'est un marché qui est promis à un bel avenir parce que si, quand on y pense, la voiture d'occasion, la voiture électrique, c'est typiquement une deuxième voiture parce que vu les problèmes d'autonomie, c'est pas une voiture qu'on utilise pour faire de longs trajets, pour partir en vacances, c'est plus une voiture qu'on utilise
Une voiture pour aller au bureau, par exemple.
Voilà, pour les trajets du quotidien.
Quand on habite en proche banlieue, par exemple, d'une
ville. Pour accompagner les enfants à l'école, etc. Donc, vous voyez, typiquement, dans un ménage, c'est une deuxième voiture. Et quand, en général, on a une deuxième voiture, bah, on a un budget moins important et donc on préfère acheter d'occasion. Donc, typiquement, l'électrique peut être une voiture d'occasion. Ce qui est intéressant, ce que rapporte Renault, pour aller dans votre sens, que c'est une voiture du quotidien, c'est qu'on a constaté qu'une Zoé électrique fait en moyenne 55 km par jour, c'est-à-dire plus qu'une Clio à essence qui va faire que 45 km par jour. Ben, je rappelle d'abord que l'électricité, c'est quasiment gratuit. Hein. Un plein d'électricité, c'est 2 euros. Alors vous voyez,
c'est important de le rappeler, j'aurais pas dit que c'était si peu cher.
Alors c'est pour 100 km uniquement, mais enfin, 2 euros.
Oui, mais quand même, d'une façon plus générale, Axel, le marché de l'électrique décolle-t-il avec le scandale du diesel notamment?
Alors oui, si on regarde pour le mois de décembre, on a eu 4400 ventes, c'est pas beaucoup, mais enfin c'est plus que deux fois plus sur un an, mais ça reste quand même un petit marché. Les voitures électriques en France, pure électrique, ça représente à votre avis combien? On est sur des tout petits volumes en pourcentage, c'est 1,4% des ventes.
Infime, ouais.
Alors si vous comptez l'hybride, on arrive à 5-6, mais enfin c'est 1,4%. C'est pas mieux chez nos voisins, en Allemagne, etc. Il y a un seul pays où l'électrique cartonne, où c'est une vente sur trois. Vous savez ce qu'est ce pays?
C'est un pays en Scandinavie.
La Norvège, vous voyez, pas loin. Parce que là-bas, il y a de vraies incitations. Vous payez pas de taxes, parking gratuit, péage gratuit et vous pouvez utiliser les voitures de bus.
Les couleurs de bus
Parce que vous avez dit quoi?
Les voitures de bus.
Ah ça, pouvoir utiliser les voitures de bus, ça pourrait être rigolo, mais ça serait un beau bordel sur la route, Axel.
Et bien là, je vais vous dire, c'est un tel succès que du coup, les couloirs de bus à Oslo, ils sont pleins. Et donc, les bus commencent à râler en disant, allez hop, les voitures électriques dehors. Voilà, c'est ce qui s'appelle être victime
de
son succès.
Je vous donne des devoirs pour la prochaine fois. Vous me ferez un point sur l'hydrogène, parce qu'il paraît que c'est l'avenir, la voiture à hydrogène.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la voiture est en pleine révolution et donc il y a plein de technologies et on ne sait pas laquelle va gagner. Peut-être que ce sera l'hydrogène.
Moi, je mise dessus. Alors, j'en prends l'engagement.
Hydrogène liquide, c'est moins 200 degrés. C'est compliqué pour le réservoir. Hein.
On appellera José Covès.
Quel rapport?
Parce que vous êtes un pari.
Emma Roche, puisque vous avez pris la parole de manière fort judicieuse, je vous la laisse.
Et je vous conseille une série documentaire qui s'appelle À l'école des infirmières sur France 4 à 20h55. Et comme le nom l'indique, c'est un documentaire
Je connais un film qui s'appelait comme ça, mais
oui,
c'était pas la
pareil,
même chose.
Voilà. Non, là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est sur l'école d'infirmiers et d'infirmières qui est située à côté de Versailles pendant un an. Le réalisateur Guillaume Viard a suivi 6 étudiants. Ils ont entre 19 et 35 ans. Ce sont des personnes soit en reconversion professionnelle ou de jeunes gens qui ont choisi cette profession par vocation, comme Joy, elle a 23 ans.
Qui, si tu poses la question, qui est dans le soin, il ne l'a pas fait par hasard. C'est pas possible. On répond tous à une histoire, à un besoin, à un manque, à une envie aussi qui nous vient de quand on était enfant. Donc finalement, les métiers comme ça du soin, c'est un peu quelque chose de viscéral. Ça vient de nous, mais ça vient de l'intérieur de nous.
Alors ce premier épisode, il correspond à leur admission à l'école de formation, des cours théoriques à la pratique. On va découvrir ces étudiants avec leurs idéaux, leurs doutes, les premiers coups durs, leurs craintes, leurs espoirs aussi face aux exigences de cette profession qu'ils souhaitent exercer pour une raison principale qui est prendre soin des autres. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Alors avec pudeur, les 6 étudiants se livrent face caméra et de toute évidence, ils feront naître des vocations auprès des téléspectateurs. Alors attention toutefois, Lisa par exemple, elle avait oublié un petit détail.
J'ai peur du sang, je sais pas du tout s'il faut que je leur dise ou pas. Après, elles vont peut-être se dire qu'elles vont se demander ce que je fais là.
Oui, forcément, avoir peur du sang quand on veut faire infirmière, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est une série documentaire en 4 épisodes, instructive et ludique, qui est à découvrir sur France 4. Une série qui a un mérite, entre autres, qui prend le temps de comprendre le parcours de ses témoins. Et c'est à voir à 20h55.
Merci beaucoup, Eva Rock, pour qu'on soit tout à fait complet. Cette information majeure qui vient de me parvenir de ma sœur, qui me dit « La Zoé, c'est très bien, elle en a acheté une depuis un mois ». La Renault Zoé, c'est la voiture de l'avenir, donc je retire ce que j'ai dit sur l'hydrogène. L'électrique, c'est l'avenir. Merci beaucoup, Eva Rock.
Belle pub pour Renault.
Merci, Axel de Tarlet. Bah, vous savez, Mickaël Darmon, les trois fantastiques seront de retour demain, peu avant 7h moins le quart. Céline, comment vous avez trouvé ce moment avec nos fantastiques ce matin?
Il avait l'air très bien, dommage que je n'ai pas tout écouté.
Merci.
Il est 6h53, Mathieu Noël.
Debout les copains s'acheminent tranquillement vers ce passage d'antenne que Nikos Aliagas aime tant, celui où je le charrie sur ses petites bévues de la veille. Le débrief de la matinale d'Europe 1 arrive avec aujourd'hui la suite des aventures du tandem comique Aliagas-Doucan. Où quand, durant une coupure pub, Nikos joue les Helmut Newton sous l'œil émerveillé du présentateur du journal de 8h.
Là, que je te fasse une photo.
Regarde-moi.
Non,
bien ou pas?
Ouais,
parce que je sais pas poser, moi. Nul.
Merde, je l'ai perdu. Pour un nouvel épisode.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains, les amis, c'est bientôt fini. Mais ne soyez pas tristes, vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas, que j'aurais bien salué s'il était là, mais il n'est pas là. Bonjour mon cher Nikos. Il m'aurait certainement répondu avec son sens de la propos habituel.
Bonjour mon cher Mathieu.
Je le savais déjà Nikos, la transmission est une valeur qui vous est chère, un peu comme votre ancêtre Platon dans son fameux livre Le Banquet. Nous verrons tout à l'heure comment vous transmettez votre savoir au jeune padawan David Doucan en matière de photographie. David Doucan, le présentateur du journal de 8h, à qui vous donnez des petites leçons photo, on le sait.
Regarde-moi. Toi ou le téléphone? Non, là, je suis pas bien. Là, c'est bien. Regarde par là.
Et marre-toi un peu. Vous découvrirez aujourd'hui un nouvel épisode des petites leçons d'Helmut Newton, votre nouveau feuilleton. Mais d'abord, un mot des nouveaux locaux et plutôt de l'adaptation de certains de nos chroniqueurs à nos nouveaux locaux. Des locaux qui ont l'avantage d'être neufs, mais le désavantage d'être vastes, très vastes. Surtout pour Laurent Cabrol, parmi les bonnes résolutions, ne figurait pas celle de se mettre au sport, mais qui a été contraint et forcé par la topographie de notre nouvel espace. Car on n'y avait pas pensé en installant à côté du yucca de la machine à café. 96 mètres entre le yucca et le studio Lagardère, pour Lolo, c'est beaucoup. Et ça s'entend un peu quand, au terme d'un trek de 12 minutes, il arrive enfin au micro, tel Walter Bonatti au sommet du K2.
Non, mais j'étais là, j'étais allé actualiser mes températures. Je peux pas actualiser les températures et puis en même temps faire du footing.
Bravo Lolo! On espère juste que l'agence antidopage ne contrôlera jamais Laurent, car la question que tous les collègues se posent est évidemment...
Vous carburez à quoi, mon cher ami?
Eh bien, le secret est bien gardé, mais selon mes informations, Laurent Cabrol carburait à Le Peignac, de l'EPO associé à...
Et une goutte de cognac.
Magie du sport de haut niveau, même si évidemment, Le Peignac n'est pas sans conséquence sur la lucidité, en voyant parfois notre Lolo dans une autre dimension, loin... Très loin des codes de la météorologie classique.
Et bonjour monsieur l'hiver, ça faisait longtemps. Bienvenue sur notre terre, magicien tout blanc.
Magnifique.
Oui, bonne route, magicien tout blanc.
Poète.
Autre personnage attachant de cette matinale, j'en parlais, le journaliste David Doucan. Aguerri, question journalisme, débutant, question photo. Le jeune freluquet s'enthousiasmait hier, pensant que son nouveau téléphone lui permettrait de faire d'aussi belles photos que Nikos Aliagas. Doucement, mon bonhomme. Ce n'est pas si simple, la photographie, lui expliquait peu ou prou Nikos hors antenne. Voici un nouvel épisode des petites leçons d'Helmut Newton.
Tiens, prochain truc, c'est moi qui vais te prendre en photo, tiens, pour changer. Maintenant que j'ai l'iPhone 10.
Ah ouais, c'est pas mal, hein.
Tu peux faire les portraits, là.
Vaut mieux les faire normal et les retraiter après.
Ah, d'accord. Ouais. D'accord.
Et bam, une petite leçon. Enfin, janvier, vous le savez, c'est la saison des entretiens individuels en entreprise. Un conseil, un seul, chers auditeurs. Toujours aller dans le sens de votre supérieur hiérarchique. Et ce quoi qu'il fasse, par exemple, prenez exemple sur Céline Dacosta, qui s'y emploie énergiquement. Souvenez-vous bien, quoi qu'il fasse.
J'irai au bout de mes rêves.
Moi, je trouve ça très bien.
Ouais, évidemment, c'est un peu gros. N'en faites pas des tonnes non plus, mais bon, allez dans son
c'était
sens.
C'était très bien.
Bravo, Mathieu Noël, c'était très bien. Vraiment. Laurent Cabrol, bonjour. Eva Rock, merci.
C'est Linda Costa.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.